l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga.
Dans le sillage de François Veyrette, son fondateur, qui est ingénieur agronome, Génération Future est une association qui lutte très activement pour informer des dangers des pesticides et qui milite pour leur suppression. Car oui, même l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, le dit clairement, certaines substances comme le glyphosate sont néfastes pour la santé de ceux qui les utilisent, de ceux qui les respirent à proximité des champs, mais également de ceux qui mangent les produits qui ont été traités avec. Génération Future, c'est donc depuis 1996 des combats contre les géants de l'agrochimie, mais c'est aussi montrer comment faire autrement, en particulier lors de la semaine pour les alternatives aux pesticides qui se déroule un peu partout en France du 20 au 30 mars. Alors Génération Future, c'est tout de suite dans l'ours et la carotte avec Sophie Bordère, qui est l'une des trois salariées de cette association qui change notre futur, peut-être pour du mieux. Alors, bonne écoute à vous. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que tu fais toi, Génération Future ?
Alors moi je suis chargée de mission sur les alternatives aux pesticides.
Parce que ça, c'est un petit peu le cœur de Génération Future.
Alors en fait, le cœur de Génération Future, c'était vraiment la lutte et l'alerte pour dénoncer les impacts sanitaires et environnementaux des pesticides. Mais l'idée derrière ça, c'était de dire on les dénonce parce que c'est un problème de santé publique, mais il y a aussi des alternatives. Et s'il y a des alternatives, il faut s'en emparer, il faut les développer et il faut se tourner vers ces alternatives pour arrêter les pesticides.
Alors qu'est-ce qui se passe avec les pesticides ? On va peut-être faire une... On le sait maintenant, on en parle beaucoup dans les médias, ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe ?
Alors, les pesticides, ce sont des substances chimiques, les pesticides chimiques de synthèse, parce qu'il y a aussi des pesticides qu'on utilise en bio et qui sont naturels. Donc, les pesticides chimiques de synthèse, c'est des produits qui finissent le mot fini en cide, donc ça veut dire que ça a pour but de tuer. Donc, il y a différents types de pesticides. Il y a des fongicides pour tuer les champignons, des insecticides pour tuer les insectes et des herbicides pour tuer ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Et du coup, ces produits chimiques ont des effets bien évidemment sur l'environnement, puisqu'ils ont pour but de tuer, mais aussi sur la santé humaine, et peuvent provoquer différents types de maladies, certains types de cancers, des maladies hormonodépendantes. Il y a aussi des pesticides qui ont des effets perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire que ça va agir sur les hormones, et là, ça peut créer vraiment des problèmes de cancer du sein, de malformations génitales, et ça peut avoir des effets à long terme, c'est-à-dire que c'est pas forcément vous allez être exposé aux pesticides, mais ça ne va pas forcément être sur vous que ça va tomber, mais sur vos enfants d'ici plusieurs années. Donc ça, c'est un réel problème de santé publique dont on commence à entendre parler, notamment grâce à l'action de nos associations sur ce sujet-là. Et on voit qu'aujourd'hui, quand on analyse des aliments, quand on analyse des cheveux, quand on analyse des poussières de riverains qui habitent proche de champs, de vignes ou de vergers, on retrouve des pesticides. Donc on sait que la population est exposée à ces substances-là. Et quand on sait que ces substances-là causent des problèmes de santé derrière, c'est un réel problème de santé publique. Et donc il faut réduire absolument notre exposition aux pesticides, que ce soit dans l'air, via notre alimentation, dans l'eau, on en retrouve aussi dans l'eau. Donc nous, on lutte pour essayer de faire autrement et de passer à d'autres méthodes et de réduire cette exposition-là.
Alors le monde scientifique, parce qu'on voit des enquêtes, des contre-enquêtes, on nous dit d'un côté c'est affreux, d'autres nous disent non, mais n'importe quoi, les scientifiques qui disent ça sont des menteurs, ce ne sont pas des vrais scientifiques. On a actuellement de l'information contre information, on ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux.
Alors sur les scientifiques, c'est sûr qu'il y a différents types d'études, on va dire. Il y a des études indépendantes qui sont financées de manière indépendante et il y a des études qui sont financées par des firmes comme Monsanto, Bayer, par l'agroalimentaire, etc. Et il faut arriver à faire la différence entre une étude scientifique fiable, indépendante, qui n'a pas pour but de dire quelque chose ou quelque chose d'autre, mais qui voit où elle arrive à la fin, et une étude financée peut-être par Monsanto qui aurait pour but de dire que le glyphosate n'est pas cancérogène.
Et alors en général, c'est très clair, c'est aussi marqué que ça. Les études indépendantes sont plutôt favorables à l'idée que les pesticides sont mauvais pour la santé et ceux qui sont payés par les firmes, l'inverse.
Pas forcément, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a aussi des études indépendantes qui doivent continuer et là, il faut aussi pousser la recherche. C'est quelque chose qu'il faut réellement faire aujourd'hui, c'est de pousser la recherche à faire plus d'études parce qu'il y a des données qui sont manquantes, parce qu'il y a des études qui n'ont pas encore pu être faites, etc. Mais par exemple, sur l'homologation de pesticides en Europe, on ne tient pas forcément compte de la littérature scientifique universitaire, c'est-à-dire des études qui ont été faites par des universités. À Génération Future, on essaye aussi de travailler, de faire en sorte que ce soit des études qui soient prises en compte. Et souvent, ces études-là sont beaucoup plus indépendantes que d'autres études. Et on voit qu'il y a aussi des failles dans le système. Après, ce qui s'est passé pour le coup sur le cas du glyphosate, le CIRC, Centre International de Recherche contre le Cancer, qui dépend de l'OMS, donc c'est pas rien, qui est une réelle institution très réputée, dont les études n'ont jamais ou très rarement été contestées, eux ont classé le glyphosate comme cancérogène probable pour l'homme en mars 2015. Quand on classe une substance cancérogène probable pour l'homme, c'est qu'il y a déjà un niveau de preuve très 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 élevé. Donc on peut dire, bon voilà, il y a quand même un très fort danger. Puis l'OMS, ce sont pas a priori des gros militants, on peut se dire que c'est fiable. Et ils ont connu derrière une campagne de décrédibilisation, comme je pense il n'y avait jamais eu avant sur ce type de structure. Et c'est les lobbies qui ont agi très fortement pour protéger leur petit patrimoine, voilà, leur petit business, leur argent. Et c'est des choses qui, du coup, pour le citoyen, sont compliquées à décrypter parce qu'on ne sait pas forcément à qui se fier. Mais nous, on peut dire clairement que sur ce cas-là, du moins, l'OMS est fiable et on tient compte, nous, on dit le glyphosate est cancérogène probable pour l'homme, il faut donc arrêter.
La grande difficulté, c'est que bon, si on l'ingère directement, en effet, on meurt, mais ces petites doses, c'est difficile. C'est ça la grande difficulté dans les études scientifiques, c'est que on ne calcule pas les histoires de cocktails, c'est-à-dire les mélanges même à faible dose, et puis ce sont des choses qui se font sur le long terme, c'est-à-dire un cancer, il se déclenche pas le lendemain d'une exposition, et des mutations génétiques, les perturbateurs endocriniens sur une ou deux générations suivantes, on n'a pas encore trop de recul sur ça. C'est ça la clé du problème, c'est là que tout le monde bataille, c'est ça ?
Exactement, c'est le fait qu'une substance peut potentiellement ne pas être nocive, mais comme elle va être mélangée à plein d'autres substances, puisqu'on est, nous, exposés à des centaines de substances chimiques tous les jours, potentiellement, cet effet cocktail et ce mélange de substances va entraîner une maladie, mais peut-être pas demain, peut-être sur plusieurs années. Si c'est un effet perturbateur endocrinien, c'est peut-être pas sur soi, mais peut-être sur ses enfants. On sait notamment que la femme enceinte présente un risque si elle est trop exposée aux perturbateurs endocriniens ou à faible dose tous les jours. Peut-être que son enfant aura une malformation, peut-être que son enfant aura un cancer, mais quand il aura 20 ans, 30 ans. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi difficiles à mesurer aujourd'hui. Alors, il y a des recherches et on espère, nous, qu'il y en aura de plus en plus et qu'on va réellement arriver à avoir de plus en plus de preuves des dangers des perturbateurs endocriniens, parce que sur les pesticides, on commence à déjà avoir une littérature scientifique assez forte. Il y a aussi le fait que, par exemple, les pesticides, il y a des limites maximales de résidus, c'est-à-dire que la France, c'est l'Europe, a fixé des limites en disant s'il y a moins que ça, c'est légal, ça nous protège. Sauf que nous, on conteste ces limites parce que justement, le fait d'être exposé à faible dose chaque jour peut entraîner des risques pour la santé derrière. Et ça, c'est une vraie bataille qu'on essaye de mener depuis des années, de répéter que les limites ne sont pas assez protectrices, de dire qu'à partir du moment où un produit présente un danger, il faut l'enlever et ne pas se baser sur le risque. Mais quel est le risque que met se baser sur le danger ? C'est dangereux, on l'enlève. C'est un des chevals de bataille de Génération Future.
Alors, des perturbateurs endocriniens, il n'y en a pas que dans les pesticides. Il y en a dans plein d'autres endroits, un peu partout en fait, dans le quotidien de l'homme moderne, dit moderne.
Alors effectivement, il y en a dans les pesticides, mais il y en a aussi dans les cosmétiques. Il y en a dans les plastiques, donc souvent les barquettes en plastique qu'on met au micro-ondes, c'est vraiment très mauvais. Il y en a aussi dans les revêtements de poils, il y en a dans les canapés, dans les sommiers, dans les habits. Voilà, donc c'est vraiment des substances qu'on trouve un peu partout et il est difficile de s'en protéger aujourd'hui à moins... Alors sur l'alimentation, ce qui est bien, c'est que la solution, c'est de manger bio. Alors après, il y a des questions d'accessibilité à la bio, etc. Mais bon, déjà, ça permet vraiment de réduire l'exposition aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens. Pour ce qui est du reste, bon, alors, pour les cosmétiques, c'est pareil, on peut prendre des cosmétiques bio.
Et c'est pas forcément plus cher si on les fabrique soi-même.
On peut aussi fabriquer ses propres cosmétiques avec des produits un peu de base qui ne sont pas toujours plus chers au final, parce que les cosmétiques, c'est quand même des choses qui coûtent assez cher.
Allez, un petit secret de beauté. Moi, j'avais vu quelqu'un qui m'avait dit « je ne mets sur ma peau que des choses que je peux manger ». Et on arrive à faire des choses assez bien avec des huiles, par exemple de cuisine, comme l'huile de coco, pour hydrater sa peau.
Ouais, c'est vrai, l'huile de coco ou le bicarbonate comme déodorant aussi. Ça marche assez bien, ça coûte vraiment pas cher. Et il y a plein de petits secrets. Alors, en plus, il y a plein de guides, il y a plein de sites internet qui recensent toutes les recettes et on peut trouver aussi du sucre et du miel pour s'épiler. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire.
Et pareil pour les produits ménagers, produits d'entretien qui, eux aussi, sont, y compris la lessive, qui sont assez terribles quand on voit les odeurs actuelles des lessives. Ça fait vraiment peur.
Alors pour les produits ménagers, c'est simple, bicarbonate et vinaigre blanc, je pense que c'est déjà beaucoup et ça suffit. Après, savon noir, ça peut aussi être une option et au final, ça coûte pas très cher d'acheter ça. Ça coûte beaucoup moins cher que de l'eau de Javel ou tout ce genre d'autres produits toxiques pour la maison.
Alors on va faire une petite pause musicale et après on va voir avec toi les alternatives aux pesticides en particulier et puis on va voir un petit peu l'actualité parce qu'elle est terrible cette actualité, elle est pas toute rose. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter ?
Je sais pas, ça serait possible de passer un truc qui n'est pas connu. Le groupe Tarsus, qui est un groupe de 6 garçons qui fait de l'afrobeat afrofunk.
Ça marche, en avant.
En l'an 2059, plus de musique. Et les bêtes qui survivent dans nos assiettes, sauvées par leurs organismes toxiques. Les vaches qu'on recrache pour ne pas mourir de la rage. Et l'amour dans un caisson, les sexes dans les caleçons, et les chattes bouchées de tampons, stérilisées, stérilets, sectionnant les sexes pour endiguer la pandémie. Les litres de semences égarés dans l'abstinence, la colère des anus, et un homme qui hurle, je t'aime. Et sa femme qui lui répond, masque à gaz, chérie.
Alors de retour avec Sophie Bordère de l'association Génération Future. Avec toi Sophie, j'aimerais bien qu'on parle des alternatives aux pesticides. Parce qu'on le sait maintenant, franchement, il faut vraiment se boucher les oreilles, ne pas vouloir voir, ne pas vouloir surtout rien changer pour se dire que c'est une bonne chose et qu'il faut continuer comme ça. Donc qu'est-ce qu'il y a comme alternative aux pesticides actuellement ?
Alors, déjà, il y a différentes choses. Il y a des alternatives aux pesticides pour l'agriculture, mais aussi pour les collectivités et les jardins. Par exemple, une des avancées qu'on a eues ces dernières années, c'est une loi qui est passée grâce au sénateur Joël Labbé, comme quoi les collectivités n'ont plus le droit d'utiliser des pesticides sur leurs espaces verts depuis le 1er janvier 2017. Donc elles ont bien dû faire autrement. Et pour ça, elles ont pu acheter des désherbeurs thermiques, mécaniques. Il y a certaines petites communes qui demandent à des bénévoles de les aider à désherber à la main. Voilà, donc les collectivités ont déjà fait ce premier pas de passer à des alternatives et ça fait un an maintenant qu'elles le font et ça a l'air de plutôt bien marcher. Il y en a qui le faisaient depuis des années. On a d'ailleurs coproduit un film qui parle de ça, qui s'appelle Zéro Phyto 100% Bio, qui est le film de Guillaume Baudin, que je vous encourage à aller voir au cinéma. Et ensuite, pour l'agriculture, qui est la partie un peu plus compliquée et plus grosse, on sait qu'il y a aujourd'hui l'agriculture biologique qui est la première, on va dire, alternative aux pesticides. Donc là, en agriculture biologique, on n'a plus le droit d'utiliser de pesticides chimiques de synthèse, on n'a pas le droit d'utiliser d'OGM. Et par contre, on a le droit d'utiliser des pesticides bio, entre guillemets, qui sont des produits issus de produits naturels, qui ont un effet sur l'environnement et les sols, puisqu'ils ont aussi pour but de tuer des insectes ou des mauvaises, ou pas de mauvaises herbes d'ailleurs, parce que c'est des herbages mécaniques. Des adventices, exactement, c'est le mot technique. Mais ce sont des produits naturels qu'il faut quand même employer avec précaution. Et sinon, voilà, le désherbage se fait manuellement ou mécaniquement. On va arrêter la monoculture, on va utiliser ce qu'on appelle les rotations de culture. Donc on va planter une année un légume, une année un autre. On va utiliser des cultures associées ou on va mettre des légumineuses associées à d'autres cultures pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. On va faire ce qu'on appelle aussi des... Alors ça c'est plutôt en production intégrée. La production intégrée c'est une manière de produire, en fait c'est un peu la troisième voie entre le conventionnel et le bio, c'est la voie du milieu, où on réduit réellement son utilisation de pesticides, donc son exposition aux pesticides, mais on en utilise encore, mais un peu en dernier recours s'il y a un souci. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui y sont passés d'ailleurs, et je vous encourage à aller voir le site sur les fermes, le réseau de fermes Défi, qui est un réseau de fermes qui est en France, où les agriculteurs justement passent à la production intégrée et essayent de... réduire leur exposition et leur utilisation de pesticides et se donnent aussi des conseils parce que c'est pas une méthode toute prête et hop, chacun l'applique. Au contraire, c'est en fonction du sol, de la région, du type de culture.
Oui, puis c'est un changement de fonctionnement dans son travail qui est pas simple. Hein. On jette souvent la pierre aux agriculteurs, mais le défi pour eux est loin d'être simple.
Pour moi, c'est un peu comme si on devait tous changer de métier du jour au lendemain et réapprendre complètement différemment de ce qu'on nous a dit, parce qu'il faut savoir qu'il y a toute une génération d'agriculteurs à qui on a quand même martelé les pesticides, c'est bien, vous arriverez à nourrir la planète avec ça, vous serez rentable, vous aurez beaucoup de produits. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est dépassé. On sait que c'est pas forcément vrai et qu'en plus, c'est dangereux pour leur santé et pour la nôtre. Du coup, passer à la production intégrée et au bio, c'est pas évident. Ça se fait sur du long terme. C'est souvent d'ailleurs une démarche dans la tête des agriculteurs qui prend du temps. Je donne souvent l'exemple de Paul François, qui est un agriculteur qui a combattu Monsanto.
Qu'on a interviewé.
Voilà. Qui
a mis, même en étant en procès avec Monsanto, qui n'était pas complètement passé au bio.
Exactement. Alors, il a mis 10 ans. C'est un gros céréalier. Je crois qu'il a 400 hectares. Qui a fait toute sa vie de l'agriculture intensive et de l'agriculture conventionnelle, qui est tombé malade. Et même malade, il a mis, je pense, 10 ans avant d'annoncer, bon, je vais passer d'abord une partie de mes parcelles en bio, les parcelles qui sont proches des riverains pour aussi protéger les riverains. Mais voilà, et le cheminement, en étant malade, en combattant Monsanto, le cheminement a mis du temps. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'une fois, il racontait qu'après avoir annoncé ça, les agriculteurs du coin commençaient quand même à venir le voir et à se dire « Ah, et alors, tu fais comment? Comment ça se passe ?» Et souvent, c'est ça. Alors, quand il y a un agriculteur quelque part qui décide de passer au bio, c'est pas un choix facile. C'est pas toujours bien vu dans la région des autres copains agriculteurs, mais quand même, il y en a certains qui viennent voir. Et aujourd'hui, là, les derniers chiffres de l'agriculture biologique, on voit que ça explose. Alors, à un petit niveau, mais il n'y a jamais eu autant de conversions, il n'y a jamais eu autant de demandes, il n'y a jamais eu autant de consommation. Donc, il y a quand même une prise de conscience du monde agricole. Les agriculteurs savent que les pesticides sont mauvais pour leur santé. Ils font peut-être pas encore autrement, mais c'est quelque chose qu'on ne peut plus nier aujourd'hui. Et on voit que ça bouge quand même, qu'il se passe quelque chose.
Alors, il y a un autre endroit où ça bouge, c'est la force des lobbies, parce que l'actualité n'est pas tout à fait rose. Le glyphosate est autorisé encore pour 5 ans dans toute l'Europe. On peut le dire, la France a voté contre. Par contre, c'est en fait tout le bloc de l'Est et l'Espagne qui ont voté pour le maintien du glyphosate. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette affaire? Pourquoi toute l'Europe de l'Est a voté globalement, et l'Europe du Nord, hein, y compris la Grande-Bretagne, a voté pour le maintien du glyphosate?
Alors, la Grande-Bretagne, c'est marrant parce que eux, 5 ans, c'était pas assez. Donc ils ont quand même voté 5 ans en se disant c'est mieux que rien, mais c'était pas assez, sachant qu'ils vont partir en plus, donc c'est pas évident. Il y a plusieurs pays de l'Est qui s'étaient abstenus auparavant, qui finalement ont suivi l'Allemagne, qui a fini par voter pour les 5 ans. Mais si on revient un peu sur l'historique de toute cette bataille qu'on a menée et qui nous a mobilisés pendant toute l'année 2017 et même l'année 2016, il faut savoir qu'on partait de loin, parce que en 2016, la Commission européenne voulait réautoriser le glyphosate pour 15 ans. Les associations en Europe, en France et puis dans chacun des pays européens se sont battues. On a réussi à avoir la réautorisation pendant un an, pendant 18 mois plutôt, pour voir ce qui allait se passer, faire des études complémentaires, etc. Et donc là, sur toute l'année 2017, on s'est battu pour que le glyphosate soit interdit définitivement.
Alors battu, c'est quoi? C'est du lobbying?
Battu, c'est du lobbying. C'est aussi beaucoup de sensibilisation des populations, de montrer que le glyphosate est mauvais pour la santé, de marteler que l'avis de l'OMS est un avis fiable et indépendant, de faire du lobbying, d'aller rencontrer les ministres, d'aller rencontrer le cabinet du président de la République pour leur exposer notre point de vue. On a aussi lancé avec plein d'autres organisations européennes une ICE, une initiative citoyenne européenne. Donc c'est une pétition européenne qui doit récolter plus d'un million de signatures. Alors, on avait un an pour le faire. On a réussi à récolter plus d'un million de signatures à travers l'Europe en 5 mois, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire des initiatives citoyennes européennes. Il y a eu énormément de mobilisation. En France, on a eu, je crois que c'était 57 000 signatures. Et encore, le processus de signature était compliqué parce qu'il fallait une pièce d'identité, il fallait marquer le numéro. Et du coup, il y a plein de signatures des choses étaient manquantes, qui n'ont pas été, voilà, qui ont été invalidées. Mais c'était déjà énorme. Donc, on a réussi à faire ça. Et je pense qu'en France, on a quand même... Alors, en France, il faut savoir qu'on est un des principaux utilisateurs de glyphosate, mais aussi de pesticides en Europe. On est le deuxième pays européen utilisateur de pesticides derrière l'Espagne. Depuis peu, on était le premier il y a quelques années. Et je pense qu'on a quand même réussi à montrer que c'était un vrai problème de santé publique, à montrer qu'on avait des alternatives, à montrer aussi avec les Monsanto Papers, toutes les fraudes qu'il y a eu, les copier-coller de rapports de Monsanto sur des rapports qui ont été utilisés en Europe pour évaluer le glyphosate. On a réussi, voilà, à montrer qu'il y avait à la fois un problème de santé publique, qu'il y avait à la fois du lobbying de firmes qui voulaient garder ce produit-là uniquement pour se faire de l'argent. On a montré quand même qu'il y avait des alternatives aux pesticides. Il y a une place en France pour parler de l'agriculture bio, le bio prend de l'ampleur. Et du coup, on a quand même... au moins en France, un gouvernement aujourd'hui qui, depuis le début, a voté contre les propositions de la Commission européenne.
On peut dire merci à Nicolas Hulot quand même, sur ce sujet-là.
On peut dire merci à Nicolas Hulot.
Parce que tous les écolos lui crient dessus, le pauvre, dans un gouvernement pas facile. Là, on peut lui dire merci.
On peut clairement dire merci à Nicolas Hulot, d'autant plus que je pense qu'il en a bien besoin en ce moment et que ça doit lui faire du bien d'entendre un grand merci. Maintenant, Emmanuel Macron a annoncé que la France sortirait définitivement du glyphosate en 3 ans. Donc pour nous, c'est très positif. Maintenant, on attend les actes. C'est encore que dans le discours. Donc on a 3 ans pour en sortir. L'idée étant de montrer à l'Europe que si la France peut le faire, les autres pays peuvent le faire. Donc on est plutôt content de la position de la France, même si on est déçu du vote final des États membres. Et on est aussi déçu de la Commission européenne et de ses propositions qui étaient 15 ans, 10 ans, 5 ans. De toute façon, on sait enfin, on ne peut pas continuer comme ça, c'est-à-dire, ok, on réautorise pour 5 ans, dans 5 ans, il y a un nouveau vote, comment ça va se passer? Il va y avoir des débats, on ne va pas réussir à se mettre d'accord, on va le réautoriser, et ad vitam aeternam.
Mais ça avance.
Mais ça avance quand même.
Passer de 15 ans à 5 ans, avoir une majorité qui est quand même discutable, le plus gros pays consommateur qui vote contre, il y a quand même, et en plus, c'est pas un gouvernement écolo hein, au pouvoir. Donc il y a quand même une grosse avancée, avec un gros lobby en plus en France qui a bien soutenu les marchands de mort.
Et c'est exactement ce qu'on se disait entre organisations européennes, après la déception du vote sur 5 ans, c'était de se dire, oui, mais rappelez-vous, on est parti de 15 ans, rappelez-vous toutes les actions qu'on a menées, le lobbying, il y a eu beaucoup de happening aussi public pour montrer que le glyphosate était nocif, il y a eu un gros travail de sensibilisation, il y a eu toute cette initiative citoyenne européenne qui a été un gros boulot pour les organisations, donc... Oui, on peut quand même se féliciter d'avoir réussi à passer de 15 ans à 5 ans.
Et avec beaucoup moins d'argent et beaucoup moins de monde et de gens qui font du lobbying que ceux d'en face.
Exactement, donc on peut aussi se féliciter de ça et il faut, je pense que c'est bon pour parce que derrière il y a des choses à faire et le combat est loin d'être fini, donc il faut quand même savoir reconnaître le bon travail qui a été mené. Maintenant, voilà, il faut agir à la fois en France pour essayer de faire en sorte que réellement des actes soient pris pour sortir définitivement du glyphosate, à la fois en Europe pour essayer d'ouvrir un chantier sur la réhomologation des pesticides en général, parce qu'on voit qu'il y a des gros soucis, que tout n'est pas transparent, tout n'est pas indépendant. Donc ça, c'est un peu le prochain chantier, je pense, à Génération Future, c'est de dire on revoit l'homologation des pesticides en France et en Europe.
Alors ça, c'est votre boulot, mais le citoyen lambda peut vous aider dans ce boulot. Il peut aller sur votre site internet, déjà s'informer, partager les posts sur Facebook. En général, quand il commence à poster des choses dans ce sens-là sur Facebook, il aura plein d'infos qui y arriveront tout seul, puisque il y a le système des algorithmes qui fait qu'il aura plus d'infos. Et puis, il y a en mars un événement que vous organisez. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, chaque année, du 20 au 30 mars, on coordonne la semaine pour les alternatives aux pesticides. Elle a lieu tous les ans du 20 au 30 mars parce que pour nous, c'est le début du printemps, donc le retour des oiseaux, du soleil, mais c'est aussi le retour des épandages dans les champs. Donc on voulait à ce moment-là montrer qu'on pouvait faire autrement. Et c'est un événement qu'on veut positif et tourné vers les alternatives. Donc l'idée, c'est que nous, on coordonne à Génération Future, mais on a une quarantaine de partenaires nationaux qui sont soit issus de réseaux agricoles, donc la Fédération nationale de l'agriculture biologique, la Confédération paysanne, des organisations environnementales comme la LPO ou Greenpeace. On a aussi des associations plutôt de santé comme le WECF. Enfin, on a tout un tas d'organisations nationales qui participent aussi et qui communiquent sur cet événement-là. Et puis, on a surtout 400 acteurs de terrain qui sont des collectivités, des petites assos locales. Ça va aussi être des agriculteurs, ça va être des cinémas. Enfin, tout un tas d'acteurs liés de près ou de loin au dossier alternatif aux pesticides qui organisent des événements.
Donc... Alors, il se passe quoi dans ces événements ?
Alors, il se passe plein de choses. C'est ça qui est super bien avec la semaine pour les alternatives aux pesticides. C'est qu'on a des ciné-débats, des conférences, des expositions, des balades, des pique-niques bio, des dégustations de vin bio, des marchés paysans bio, des spectacles, enfin voilà, tout un tas d'événements très ouverts. Chacun organise en fait des événements à son niveau et en fonction de ses envies. Donc c'est toujours très sympa. Il y a tout un programme qui est sur le site. C'est www.semaine-sans-pesticides.fr. Donc toutes les informations sont là. Et en 2018, la thématique à l'honneur sera l'alimentation. Parce qu'on se dit que c'est important de parler de ces thématiques-là. Déjà, tout le monde mange et que ça peut être un plaisir. Et on sera à la fin des états généraux de l'alimentation qui... Bon, voilà, on avait envie de montrer qu'on pouvait aller beaucoup plus loin que ces états généraux de l'alimentation, de montrer qu'il y a des initiatives partout que oui, il y a de l'agriculture bio et oui, le bio peut être parfois plus cher, mais pas forcément. Il y a des petites choses qu'on peut faire, manger moins de viande par exemple, consommer des produits de saison, ça nous permet d'avoir un panier un peu moins cher, consommer en circuit court auprès du petit producteur. Il y a plein d'initiatives aussi qui essayent de rendre la bio accessible à des populations précaires, et ça, il y en a un peu sur tout le territoire. On avait, dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides, lancé un prix il y a quelques années qui nous a permis de récompenser des initiatives. Et puis, on aimerait aussi pousser la problématique des cantines bio cette année. Voilà, donc ce sera un super beau programme, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet.
Alors les cantines bio, c'est sûr, parce que les générations futures vous diront merci. Générations futures, on ne l'a pas dit, ça s'écrit au pluriel, bien sûr. Merci beaucoup Sophie Border, et l'antenne vous reste ouverte quand vous voulez.
Merci à vous, et puis à bientôt.
C'était l'ours et la carotte, écoutable sur internet.